temps. Le temps, l'homme l'a habilement divisé en millénaires, en siècles, en années, en mois, en jours, en heures, en secondes, en millisecondes, en nanosecondes. C'est le temps décapité, tronçonné, débité, le temps aux mains du pouvoir des hommes. Mais aussi le temps enchaîné pour dominer l'homme. Agenda, horaire, réservation, alarme, minuteur, horodateur. Notre Dieu, lui, est hors du temps. Il a tout le temps. De toujours à toujours, il est Dieu. Depuis cette semaine, nous vivons un drôle de temps. Tant d'urgence et de survie pour ceux qui sont malades et pour leurs soignants. Tant au ralenti ou à l'arrêt pour ceux qui sont confinés. Le temps nous paraît interminable, ralenti, détraqué. Nous ne savons plus à quel temps nous vouer. Dans ce temps hors du temps, Dieu ce matin nous invite à prendre le temps, tout simplement. Prendre le temps de l'écoute, de l'écouter lui. Lui qui nous donne, une fois encore, sa grâce et sa paix. Seigneur, je viens te demander la grâce de la patience. Je voudrais retrouver un peu le sens de la nature et le sens de ses rythmes. Accepter que les moissons aient besoin de soleil. Accepter que les hommes aient besoin de sommeil et que les réponses aient besoin de réflexion et de repos. Je voudrais accepter qu'il faille 9 mois pour que naisse un enfant. Accepter sans récriminer les délais qu'impose la nature des choses. Accepter finalement de vivre dans ta création et non point dans la mienne. Ô Seigneur, donne-moi d'aimer ce déroulement fastidieux et fécond des jours et des saisons, ce mûrissement interminable des fruits et des paroles. Donne-moi d'attendre que vienne la patience. Seigneur, de génération en génération, tu étais notre abri. Avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. C'est toi qui dis aux humains, redevenez de la poussière. Alors ils meurent et redeviennent poussière. Pour toi, 1000 années passent aussi vite que la journée d'hier ou quelques heures de la nuit. Tu emportes la vie humaine, elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fane, elle est sèche. Notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir, voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans, 80 pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela, alors notre cœur sera rempli de sagesse. Seigneur notre Dieu, répands sur nous ta douceur. Rends solide le travail de nos mains. Oui, rends solide le travail de nos mains. Après avoir la semaine dernière parlé de l'espace, je vous invite ce matin à réfléchir à la valeur du temps. Nous écouterons une histoire très étrange de la Bible, le jour où le temps s'est arrêté. Elle se trouve au chapitre 9 et 10 du livre de Josué. Cette lecture sera complétée par quelques versets tirés du début du dernier chapitre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse.
Les habitants de Gabaon apprennent ce que Josué a fait aux villes de Jéricho et d'Aï. Alors ils décident d'utiliser la ruse avec les Israélites. Ils préparent de la nourriture, ils chargent leurs ânes de vieux sacs et de vieilles outres à vin, déchirées et recousues. Ils mettent des sandales usées et recousues, des vêtements déchirés. Ils prennent avec eux du pain sec et en miettes. Ils vont au camp du Gilgal et ils disent à Josué et aux Israélites « Nous venons de très loin pour vous demander de passer un accord avec nous. » Les Israélites répondent assez vite « Vous habitez peut-être tout près de nous. Dans ce cas, nous ne pouvons pas passer un accord avec vous. » Les Hivites disent à Josué « Nous sommes à ton service. » Josué leur demande « Qui êtes-vous? D'où venez-vous ? » Ils répondent « Nous, tes serviteurs, nous venons de très loin. En effet, nous avons entendu parler du Seigneur ton Dieu. Nous savons tout ce qu'il a accompli en Égypte. Nous savons aussi tout ce qu'il a fait aux deux rois amorites qui vivaient de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi du Bashan, qui habitaient à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit « Prenez avec vous de la nourriture pour la route. Allez trouver les Israélites. Dites-leur que vous devenez leurs serviteurs et passez un accord avec eux. Regardez le pain que nous avons pris dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir ici, il était encore chaud. Maintenant, il est tout sec et en miettes. Et ces outres, quand nous les avons remplies de vin, elles étaient neuves. Maintenant, elles sont toutes déchirées. De même, nos vêtements et nos sandales sont complètement usés, à cause du long chemin que nous avons fait. » Alors les Israélites mangent une part de la nourriture des gens de Gabaon. Mais ils n'interrogent pas le Seigneur pour connaître sa volonté. Josué passe avec eux un accord de paix qui les laisse en vie. Les responsables de la communauté leur jurent de respecter cet accord. 3 jours après avoir passé cet accord, les Israélites apprennent que les Gabaonites habitent en réalité tout près d'eux. Alors Josué réunit les Gabaonites et il leur dit « Vous nous avez trompés, mais pourquoi ? Vous avez dit que vous habitiez très loin. Or, vous habitez tout près de nous. À partir de maintenant, vous êtes maudits. Vous serez toujours des esclaves. Vous couperez du bois et vous puiserez de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Il impose aux Gabaonites la charge de couper du bois et de puiser de l'eau. Ils le feront pour le peuple d'Israël et pour l'autel du Seigneur, à l'endroit que le Seigneur choisira. Aujourd'hui encore, les enfants de leurs enfants ont cette charge. Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, apprend tout ce qui s'est passé. Josué a pris la ville d'Aï, il l'a complètement détruite. Il l'a traitée comme il a traité Jéricho et son roi. De plus, les Gabaonites ont fait la paix avec les Israélites et ils vivent au milieu d'eux. Ces nouvelles font très peur aux gens de Jérusalem. En effet, Gabaon est une grande ville, plus grande que la ville d'Aï. Elle est aussi importante que les villes gouvernées par un roi, et tous ses soldats sont courageux. Alors Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, envoie des messagers à Hoham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Yarmouth, à Yafia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon. Il leur demande ceci. « Venez m'aider à attaquer la ville de Gabaon, car ses habitants ont fait la paix avec Josué et les Israélites. » Les cinq rois amorites, ceux de Jérusalem, Hébron, Yarmouth, Lachish et Églon, se mettent ensemble. Avec toutes leurs troupes, ils installent leur camp devant la ville de Gabaon et ils l'attaquent. Les Gabaonites envoient des messagers à Josué, au camp du Gilgal, pour lui dire « Ne refuse pas de nous aider, nous tes serviteurs. Viens vite à notre secours et délivre-nous. Tous les rois amorites qui habitent la région des montagnes se sont unis contre nous. » Alors Josué quitte le Gilgal avec ses courageux combattants et toute l'armée. Le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, je vais livrer ces gens en ton pouvoir. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Josué et ses troupes marchent toute la nuit depuis le Gilgal. Ils attaquent les Amorites par surprise. Le Seigneur met en fuite les Amorites devant les Israélites. Ceux-ci les battent complètement près de Gabaon. Ils les poursuivent sur la montée de Beth-Horon et ils continuent jusqu'à Azeka et Makeda. Les Amorites fuient devant les Israélites et ils se trouvent de l'autre côté de Beth-Horon. À ce moment-là, le Seigneur fait tomber sur eux une violente grêle. Cela dure jusqu'à Azeka, et la grêle tue plus de soldats que les épées des Israélites. Le jour où le Seigneur livre les Amorites à l'armée d'Israël, Josué fait une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, reste immobile sur la vallée d'Aïalon. » Le soleil s'arrête et la lune reste immobile jusqu'à la victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis. Voici ce qui est raconté dans le livre du Juste. Le soleil est resté immobile au milieu du ciel, il a retardé son coucher pendant presque un jour entier. Ni avant, ni après, il n'y a eu un jour comme celui-là. Ce jour-là, le Seigneur a obéi à un homme, car le Seigneur lui-même combattait pour Israël. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournent au camp du Gilgal. L'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre, il sort du siège de Dieu et de l'agneau, et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, 1 fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils seront rois pour toujours.
Thank you.
Les gens de Gabaon ont fait alliance avec les enfants d'Israël. Ils y sont pris par ruse. Ce n'est guère qu'une ruse de plus dans l'histoire des descendants de Jacob, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ruse ou pas ruse, à leur tort ou avec bonne raison, les Gabaonites font désormais partie de l'alliance du Dieu d'Israël. Conversion sincère ou calcul politique, cela reste une alliance. La parole que Josué a donnée à ces gens reste une parole donnée, même quand il s'avère qu'ils ont joué la comédie du long voyage avec leurs pseudo-vieilles chaussures, leurs pseudo-vieilles outres et leurs pseudo-vieux pains secs. Ce qui est juré est juré. L'alliance de paix demeure fondée non sur la dignité de celui avec qui elle est faite, mais sur la fidélité de celui qui l'a conclue. Gabaon, désormais, fait partie d'Israël. Mais ce n'est pas forcément un avantage pour lui. S'il échappe ainsi à la menace d'Israël, il doit faire face désormais à la menace des ennemis d'Israël. La paix qu'il a demandée et reçue d'un côté l'entraîne d'un autre dans la guerre. La paix avec Dieu entraîne dans de nouvelles luttes inconnues jusque-là et inattendues, car la paix de Dieu, c'est parfois dans de dures batailles qu'il faut la vivre. Cinq rois amorites se liguent contre Gabaon pour le châtier d'avoir conclu cette alliance qu'il considère comme une trahison. 5-1. Mais contrairement à ce qu'ils espéraient, ce n'est pas seulement la petite tribu de Gabaon qu'ils trouvent en face d'eux, c'est toute l'armée de Josué. Si Gabaon connaît de nouvelles luttes, il connaîtra aussi de nouvelles délivrances. Et c'est ainsi que, dans les plaines, dans les sentiers, dans les ravines de la montagne, s'enfuient les 5 rois et leurs armées taillées en pièces. Quelle journée ! L'épée d'Israël frappe sans relâche, et ceux qui lui échappent tombent sous les coups de la grêle. Ils ne peuvent que fuir. Mais ils ne savent où fuir. Partout, la terrible main de Dieu les rejoint et les retrouve. Ah ! Que vienne donc vite la fin de ce jour maudit, que le soir se hâte de descendre et que se couche enfin le soleil derrière les collines fatales de Gabaon. Pour les débris dispersés de l'armée des Amoréens, il s'agit de tenir jusque-là, jusqu'à la nuit. S'ils y arrivent et si la nuit tombe avant le coup d'épée mortel, les rescapés de cette lugubre aventure pourront regagner ce qui reste de leur ville ou de leur village. Il n'y a plus qu'un espoir, c'est la nuit. La dernière espérance, ce sont les ténèbres. Chacun sait que, si mauvaise soit la journée, la nuit viendra. Chaque jour s'achève dans la nuit. Et si l'on n'attend plus rien du jour, on peut au moins attendre la fin du jour. Il ne reste aux Amoréens, comme il ne reste souvent aux malheureux, que l'espoir des ténèbres, qui seront peut-être meilleures que la lumière. Encore faut-il tenir jusqu'à la nuit, encore quelques heures, et ils seront sauvés. Mais la voix de Josué s'élève. Face au soleil qui décline et au temps qui passe, Josué parle. Il parle non pas au soleil, mais au Seigneur. Sa parole dite au soleil, c'est à Dieu qu'il la confie pour qu'il en fasse, s'il le veut, sa propre parole et qu'ainsi il l'exauce, s'il lui plaît de l'exaucer. Josué parla au Seigneur et dit « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Josué n'est pas un magicien, il est un croyant. Et voici, dit le récit, que le soleil s'arrêta. Le soleil s'arrêta sur Gabaon. Il n'y aura donc plus de nuit. La nuit tant attendue ne viendra pas. Plus rien ne viendra. Littéralement, il n'y a plus d'avenir pour ces hommes. Le temps s'est arrêté avec le soleil. Le temps ne passe plus. Cet aujourd'hui ne sera jamais le jour d'hier. Il n'y a plus de passé et il n'y a plus de lendemain. Il n'y a plus que le maintenant d'une lumière dans laquelle on ne peut se cacher nulle part, contre laquelle il n'y a plus ni refuge ni défense. Il n'y a plus le passé auquel on croit pouvoir se confier pour qu'il ensevelisse les mauvais souvenirs, et il n'y a plus ce lendemain où les choses iront peut-être mieux. C'est fini. Il n'y a plus ces temps auxquels les hommes croient, le temps que l'on a, le temps que l'on aura, le temps qui fait bien les choses, le temps dont on dit qu'il arrange tout. Non, le soleil s'est arrêté. Sur le cadran, l'ombre reste immobile. Il n'y a plus de place ni pour les souvenirs, ni pour les rêves, ni pour l'espérance. Il n'y a de place que pour l'instant, c'est-à-dire pour l'éternité elle-même. La distance entre l'autrefois, le maintenant et le plus tard n'existe plus. Les trois sont rassemblés et confondus. J'étais, je suis et je serai, c'est la même chose. Tous les temps de l'homme sont là, comme récapitulés, unifiés. Face à Dieu, ces hommes sont aussi face à eux-mêmes. Ils sont ce qu'ils ont été, et ils ne seront plus jamais que ce qu'ils sont. Pour unique avenir, ils ont leur présent. Avec le soleil, ces hommes eux-mêmes sont arrêtés, stoppés dans leur situation d'ennemi de Dieu. Ô jour unique, image du dernier jour, page qui ne se tournera plus. Nous écrivons au long de nos jours les pages successives de notre existence. L'une après l'autre, les pages se tournent, pages que l'on voudrait bien empêcher d'être tournées, ou au contraire, pages dont on espère qu'elle se tournera rapidement. Ne dit-on pas « tournons la page » ? Brusquement, l'instant viendra où elles seront toutes là, les pages. Tout le livre sera là, devant Dieu qui le lira. Car il lira ce livre en un seul regard, lui le Seigneur qui sait ce qu'est le temps. Il sait quel est notre passé et quel est notre présent. Et il nous voit dans l'un et dans l'autre. Il nous voit face à face. Et quand nous le verrons, lui, face à face, nous connaîtrons alors le secret de notre existence et l'harmonie du passé et du présent. Le temps sera accompli. Le soleil s'arrêtera. Et pour tous, pour tous les hommes, ce sera Gabaon. Il n'y aura plus de nuit, nous dit l'Apocalypse. C'est une phrase aussi merveilleuse qu'inquiétante, et nous pouvons la saisir à la fois comme une promesse dont nous attendons l'accomplissement, mais peut-être aussi comme une menace vis-à-vis de nos œuvres mauvaises. Car ce jour de victoire pour Israël est défaite et mort pour les Amoréens. Nous aussi, nous sommes peut-être tiraillés entre cette espérance et cette crainte. Mais soyons rassurés. Cette victoire est celle de Dieu lui-même, un Dieu d'amour. Et si déjà aujourd'hui, par sa parole, il poursuit cet Amoréen que je suis jusque dans ses derniers refuges, s'il ne lui laisse pas la paix, s'il n'a pas le de repos avant de l'avoir exterminé, c'est afin que seul vive son élu, celui qui en moi, créé dans la lumière, déjà vit et marche avec le Christ. Frères et sœurs, la bataille de Gabaon se livre maintenant. Celui que Dieu rencontre déjà vit l'heure dernière, déjà il est arraché au temps. Le soleil se lèvera et se couchera autant de fois qu'il y aura de jours et de nuits, mais le temps qui passe encore ne changera plus rien à l'essentiel. Cette femme, cet homme que Dieu a trouvé, est fixé pour toujours. Ce jour-là, à nul autre semblable, est le jour de l'éternité. Faut-il alors se demander si ce récit de Josué est historique, si c'est bien arrivé ainsi? C'est historique, mais à la manière de la Bible, c'est-à-dire d'une manière actuelle et prophétique. C'est une histoire vraie, mais dont la vérité n'est pas derrière nous, comme la vérité historique de l'histoire de France, par exemple. La vérité de ce récit est présente et future. La vraie question n'est pas de décider si les choses se sont bien passées ainsi dans le passé, mais de savoir si elles se passent ainsi maintenant et ici, comme elles se passeront quand nous comparaîtrons devant la face de Dieu. La vérité du livre de Josué est une vérité prophétique, car ce livre est un des lieux où retentit la parole que Dieu adresse, non pas à des hommes et des femmes curieux d'histoire, mais à des hommes et des femmes qui ont à vivre leur propre histoire, celle où Dieu intervient pour les sauver. Une histoire dans laquelle résonne une voix familière, celle du psalmiste. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la nuit. Amen. Ralentis mes pas, Seigneur. Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit. Freine ma marche par la vision de l'infini du temps. Accorde-moi dans la confusion de ma journée le calme des collines éternelles. Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières qui chantent dans mon souvenir. Aide-moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil. Apprends-moi l'art de prendre des vacances minutes pour admirer une fleur, bavarder avec un ancien ami ou en faire un nouveau, caresser un chien, regarder une araignée tisser sa toile, sourire à un enfant, lire quelques pages d'un bon livre. Rappelle-moi chaque jour que la course n'est pas toujours au plus pressé et que vivre mieux n'est pas vivre plus vite. Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne et à me rappeler qu'il a grandi lentement. Ralentis mes pas, Seigneur, et enseigne-moi à plonger mes racines profondément dans le sol des valeurs les plus durables de la vie, afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin. Amen. Cette semaine, donne-nous le temps, Seigneur, d'aimer et d'être aimé. Et que nous prenions le temps de te dire merci d'avoir donné un sens à tous nos temps.
Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You'll have every failure, God. You'll have every victory.